Donc, enchanté, Olivier Labussière. Je vais vous introduire, toujours sur le thème 4, c'est-à-dire critique politique, esthétique et environnement, une nouvelle session qui, à titre personnel, je trouve, c'est une proposition, ça n'est pas prescriptif, qu'on aurait pu intituler « À l'abordage ». À l'abordage, parce qu'il y a, malgré tout, dans les trois présentations qu'on va vous faire, la volonté de renouveler l'abord, pas comme des pirates, mais de renouveler l'abord d'un certain nombre d'existants, que l'on parle de la conception dans le design, du milieu urbain, ou bien de ce qu'on appelle, à tort sans doute, les mauvaises herbes. Donc à l'abordage pour cette dernière session, et je vais vous présenter nos différents intervenants. Nous avons tout d'abord sur une communication intitulée « Pour une écologie du design », Manola Antonioli, qui est philosophe et chercheuse associée au laboratoire art et qui enseigne également à l'université de Paris-Ouest-Nanterre, qui enseigne à l'École nationale supérieure d'art de Dijon et à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles.
Je enseigne à la Villette.
Et donc, à tes côtés, Alessandro Vicari, qui lui est architecte et qui enseigne, si je ne me trompe pas, à l'ESAD d'Orléans.
Oui.
Si. Bien. Donc, votre présentation nous propose de suivre les processus et pratiques de l'éco-design pour montrer en quoi ils peuvent renouveler les relations entre nature et industrie, et notamment avec un abord proposé qui est l'écosophie de Guattari. La deuxième présentation, par Laetitia Angot et Zoé Agel. Laetitia Angot est chorégraphe et développe notamment sa pratique à la croisée de plusieurs genres artistiques, danse, théâtre, cirque, si je ne me trompe pas.
Oui, cirque, non.
Mais cirque, non.
Ça pourrait.
Mais ça pourrait. Et Zoé, qui elle est urbaniste et éco-sociologue, est rattachée au laboratoire LIEU, donc laboratoire interdisciplinaire environnement urbanisme de l'université Aix-Marseille. Pour leur part, leur présentation propose de mettre à jour, par la danse et l'urbanisme, et au travers de ces approches, des capacités d'ouverture au lieu, au vécu et au sensible, des configurations de relations entre humains et non-humains dans le milieu urbain, et à travers ces formes d'investigation renouvelées, d'appréhender la question de quoi, de qui prend-on soin dans le milieu urbain. Et la troisième présentation de Bénédicte Ramad, qui est assise ici devant, historienne de l'art et qui enseigne à l'Université de Montréal et l'Université de Québec, et qui propose une présentation sur la dissidence botanique comme modèle d'action, et qui notamment proposera de suivre des pratiques artistiques qui redonnent aux plantes une existence, notamment une existence, enfin, où le précisera, mais un nom, un usage, voilà, une présence. Voilà. Donc à l'abordage, je vous souhaite une excellente, d'excellentes communications.
Merci.
Merci. Je vais commencer cette communication qui est partagée avec Manola. En effet, nous avons commencé déjà il y a 3 ans un travail, une recherche qui concerne la question de l'écologie et du design. On a des compétences qui se complètent. Et aujourd'hui, on va présenter le travail, l'état de l'art. Voilà, l'état de l'art. Donc, écologie et design, en effet, ce que nous appelons écologie du design ne se limite pas aux approches habituellement réunies sous le nom d'éco-conception. Une prise en compte seulement quantitative et normative de l'impact environnemental des objets, produits, services, est à nos yeux insuffisante s'il n'est pas accompagné par une remise en cause de leur rôle et des modalités globales de production et de consommation. Alors, cette recherche est guidée d'une part par les principes de l'écosophie, comme a été dit, en particulier soutenu par les recherches de Philippe, par les travaux de Félix Guattari dans ce texte de 1999, Les trois écologies, et qui associe systématiquement l'écologie environnementale au souci pour une écologie psychique et sociale. D'autre part, nous nous sommes inspirés de la lecture du designer, du travaux du designer austro-américain Victor Papanek, qui déjà en 1971 se faisait le pionnier d'un nouveau engagement social du design. Donc dans ce texte, qui c'est Design for the Real World, qui a été traduit en Design pour un monde réel en français, il invitait les designers à ne plus poursuivre les intérêts exclusivement commerciaux, mais à réfléchir à des solutions technologiques appropriées pour des produits et des services socialement utiles et respectueux de l'environnement. Dans une grande partie de l'histoire du design industriel, la subordination de la fonction du designer-concepteur au seul impératif marchand a été pour Papanek la source d'une grande quantité d'erreurs, de catastrophes même, dans les domaines de la production des outils et des environnements. Pardon. Les concepteurs ont, à son avis, disait, ont abdiqué leur responsabilité sociale et morale pour suivre les impératifs du marketing et de la société de consommation. Donc, Design for the Real World est une critique acérée de ce que Papanek appelle, ce que tout ce qu'on est comme culture Kleenex depuis. Le design, s'il veut assumer ses responsabilités écologiques et sociales, doit être révolutionnaire et radical, au sens strictement écologique, étymologique. Cela implique que nous consommions moins, que nous fassions durer les choses plus longtemps, que nous recyclions les matériaux, et probablement, il disait sur ces pages de ces livres, qu'il faut arrêter de gâcher du papier pour imprimer des livres comme celui qu'il avait écrit. Alors, plus de 50 ans après la publication de cet ouvrage de Papanek, on peut constater que le recyclage, le réemploi, la réutilisation, qui sont autant de formes différentes de stratégies de récupération, jouent un rôle central dans les pratiques contemporaines du design animées par des soucis écologiques. Le refus des pratiques de gaspillage, de surconsommation, d'obsolescence programmée s'oppose à un système basé sur la croissance infinie qui caractérise l'économie de surconsommation du système industriel et qui ne se pose jamais la question de la fin de vie des objets qu'il produit. En 1975, Jean Baudrillard évoquait dans une perspective anthropologique la question de la mort des objets par le design. Au niveau esthétique, le design est né d'un projet de synthèse entre forme et fonction de nouveaux objets produits par l'industrie, de la recherche d'un équilibre interne à l'objet qui constituerait désormais sa beauté et sa vérité. Donc, deux aspects indissociables l'un de l'autre. Mais la logique de la rationalité de la forme a été rapidement supplantée par la logique cyclique de la mode, qui impose une relativité totale et une obsolescence rapide de toute forme. Dans l'euphorie collective de la production-consommation, notre civilisation fonctionnelle a oublié la fonction de mort et de destruction des objets. Nous ne reconnaissons plus à nos objets les droits de s'user lentement, de vieillir, de mourir, les droits au sacrifice et à la mort. Nous ne les raccordons plus qu'à un statut instrumental, et lorsque celui-ci prend fin, le statut de déchet. D'ailleurs, avant d'être en France, j'avais une agence en Italie, j'ai réalisé un cimetière en Italie, et les services municipaux pour lesquels j'ai travaillé étaient les mêmes du service de récolte des poubelles. Donc les cimetières changeaient de statut, n'étaient plus un bureau cimétérial, mais c'était un bureau qui, en même temps, gérait les déchets urbains. Les stratégies de récupération que les sociétés industrielles redécouvrent aujourd'hui, après avoir abandonné durant l'euphorie de la consommation, ont toujours subsisté dans les sociétés traditionnelles et dans celles laissées en marge du développement économique. Comme par exemple au Sénégal, l'image que vous voyez, le démontage et la réutilisation des déchets occidentaux génèrent une activité artisanale des produits utiles destinés aux usagers locaux, ainsi qu'à la production artistique pour l'exportation vers l'Occident, vers nous. Donc ce mobilier qui est dessiné par un artiste sénégalais, Baye Sali Séné, en effet, fait l'arrêt-retour. On envoie des déchets, on envoie même des emballages de marchandises qui nous reviennent transformés par une action artisanale, mais menée avec nos mêmes paramètres. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un charmant garçon qui produit des charmantes formes et qui séduisent dans les galeries, dans certaines galeries occidentales, les clients. Le savoir-faire artisanal, ancestral même, des tressages des tribus zoulous d'Afrique du Sud se retrouve décliné dans la récupération de milliers de kilomètres de câbles téléphoniques multicolores utilisés pour la fabrication de paniers solides et raffinés qui sont destinés à la clientèle occidentale. Ces paniers donc, sont en commerce à la boutique du musée de Kendembranli. Le manque dramatique des matières premières dans les pays soumis aux blocus commerciaux est une source pour l'intelligence pratique de la réutilisation. L'embargo qui avait été à l'origine de la production autarcique d'objets et matériaux ingénieux dans l'Italie fasciste des années 30 a contribué récemment à développer le détournement d'objets au quotidien à Cuba. L'implosion de l'économie soviétique dans les périodes précédentes sa chute aux années 80, a développé à l'époque une pratique ingénieuse d'autoconstruction d'objets et d'accessoires que l'économie collective n'arrivait pas à produire ni à distribuer. Le designer cubain, artiste et designer Ernesto Rosa, travaille depuis longtemps sur les inventions vernaculaires de Cuba. Et dans l'ouvrage Rick and Billy, Rosa présente le fruit de l'inventivité collective cubaine confrontés à une situation de pénurie chronique dans les périodes de l'embargo américain. Alors, les stratégies vernaculaires à Cuba ont connu plusieurs phases. La première était celui de la période de la Révolution. Les Cubains prolongeaient la durée de vie des objets. Donc, les voitures qui, depuis, nous connectent à un imaginaire cubain sont les voitures américaines des années 50, qui sont restées pour longtemps. Après l'épuisement de cette marchandise, les aides soviétiques arrivaient que de façon tardive, insuffisante, pas bien gérée. Les Cubains ont dû commencer à cultiver toute une industrie vernaculaire fondée sur le bricolage de ces genres. Donc, ce type d'objets qui prolongent leur vie grâce à des habiletés, des capacités de transformation, des béquilles, sont des objets assistés par une évolution interne. Mais on voit aussi des transformations, comme par exemple ces verres obtenus en coupant une bouteille de Coca-Cola. Il s'agit donc d'une traduction et d'une manière de compléter ce qui manquait jusqu'à la phase finale de cette évolution qui a été capable d'exploiter des systèmes de production à l'échelle familiale, à une échelle domestique presque, par des technologies simples comme l'injection de plastique ou la fusion d'aluminium. Là, il y a quelques outils. Donc ça, c'était même réalisé de manière semi-clandestine durant le régime. Le symbole de Cuba est le Rikimbili. C'était le titre de l'ouvrage que j'ai cité auparavant. Et c'est cet objet-là. Donc il s'agit d'une customisation, d'une personnalisation d'un objet, d'un vélo, sur lequel a été monté un moteur qui aide, qui facilite l'action de circulation et qui vient de n'importe quel autre engin. Donc un petit moteur de récupération. Ça c'était le résultat de l'embargo américain. Alors, la deuxième partie, c'est Manon qui le...
Donc c'est moi qui continue. Donc cette question de la réduction du gaspillage, la valorisation des déchets par la réutilisation, le réemploi, le recyclage. Après, il y a tout un travail qui est fait pour différencier toutes ces formes différentes de recyclage, réemploi, réutilisation. On ne peut pas rentrer dans le détail de la question. Constitue une orientation incontournable d'une nouvelle écologie du design, mais aussi dans l'architecture, comme en témoigne la récente exposition « Matière grise » qui avait été réalisée au pavillon de l'Arsenal par le collectif « Encore heureux ». Et en 1975, dans un autre ouvrage consacré à l'impératif vert, The Green Imperative, dans les pratiques de la conception, le design et l'architecture, le même Victor Papanek, dont on parlait tout à l'heure, qui était designer et architecte, affirmait que ces objectifs, c'est-à-dire ces objectifs de réutilisation et réemploi, restaient cependant insuffisants dans une perspective d'écologie du design globale, s'ils n'étaient pas associés à une réorientation de tout le processus de conception, de production et d'usage. Donc, à son avis, le travail du designer ne consistait pas à livrer à des consommateurs passifs des solutions toutes faites, imposées à l'aide de la publicité et du marketing, mais à proposer à des usagers conçus comme étant des personnes, des individus autonomes, des choix ouverts qui leur permettent de prendre part activement aux décisions qui concernent directement leur vie, notamment les décisions concernant leur environnement meublé, bâti, d'acquérir les compétences nécessaires pour dialoguer avec les concepteurs et pour devenir à leur tour les concepteurs de leurs propres usages, objets, outils et environnements. Donc, pour Victor Papanek, une réorientation des pratiques des designers en fonction de l'impératif vert exige également une nouvelle conception du designer en tant qu'entrepreneur, dans la mesure où le designer est toujours lié à un circuit commercial, industriel. Donc déjà en 1995, il proposait comme solution de remplacer progressivement le système industriel existant par des petites unités de production hautement décentralisées, afin de donner plus d'autonomie aux travailleurs, de créer des liens plus étroits avec les ressources du territoire, et de réduire les frais dus à la logistique requise par la grande échelle. Donc, une des hypothèses qu'on est en train sur laquelle on est en train d'effectuer des recherches en ce moment, c'est que la multiplication actuelle des Fab Labs, Hackerspace, tiers-lieux en tout genre, pourrait constituer une première étape de cette transformation du modèle industriel, notamment dans le cadre du design qui a été anticipé par Papanek. Donc, comme vous le savez, depuis le milieu des années 2000, se constituent en effet des nouveaux écosystèmes et une nouvelle écologie du faire, dans lesquels les designers, les designers, les architectes sont étroitement impliqués. La multiplication de communautés qui a caractérisé l'essor d'Internet et du monde des réseaux depuis les années 90 s'étend désormais de l'économie immatérielle à l'invention et à la production d'objets, du monde des bits à celui des atomes, pour reprendre l'expression de Chris Anderson, qui est l'auteur de l'ouvrage best-seller Makers, qui n'est pas le meilleur ouvrage que vous pourrez lire sur la question, mais c'est un ouvrage de divulgation. Les makers, qui sont appelés des faiseurs par les sociologues qui étudient le phénomène en France, je ne suis pas persuadée que la traduction soit heureuse, mais c'est celle qui en ce moment est utilisée, œuvrent dans des lieux très variés, donc qui peuvent s'appeler Hackerspace, Makerspace, Fab Labs, ateliers de production et de réparation, avec là aussi des différences liées au fonctionnement, au modèle économique, au modèle esthétique, au modèle politique, etc., dans lesquels qu'on ne pourra pas explorer ici, qui procèdent à une sorte d'hybridation entre le monde du bricoleur et de l'artisan et celui de l'ingénieur et de l'informaticien. En effet, on distingue souvent entre les makers que moi j'avais l'habitude d'appeler low-tech, mais eux-mêmes ils s'appellent. J'avais l'habitude d'appeler high-tech, mais eux-mêmes ils s'appellent des makers software, qui travaillent essentiellement dans le domaine informatique, et des makers que moi j'appellerais low-tech, mais qui eux s'appellent hardware, qui animent des ateliers avec des activités très différentes impliquées dans le domaine matériel, qui vont de la cuisine à la couture à d'autres activités très quotidiennes. Donc ces nouveaux lieux se caractérisent par l'autofabrication numérique, la constitution de savoirs collectifs virtuellement accessibles à tous grâce à Internet, et prolongent les mécanismes de collaboration et de partage qui ont fait le succès du mouvement du logiciel libre et de l'open source. On assiste ainsi à une redécouverte du travail artisanal, mais dans le contexte de la puissance de fabrication et de diffusion qui est fournie par les nouveaux outils numériques. C'est pourquoi de nombreux observateurs de ce phénomène, qui maintenant est planétaire, hein, parlent d'un nouvel artisanat numérique ou artisanat industriel. Dans un contexte hautement technologique, hein, ces espaces se sont fait connaître au niveau médiatique, notamment parce qu'ils incluent des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, des accès au réseau, et ainsi de suite. Le courant contemporain du do-it-yourself semble redécouvrir d'une certaine façon la dimension anthropologique du bricolage, décrite par Lévi-Strauss dans La pensée sauvage comme étant une science du concret. On trouve des points communs, tout d'abord, dans l'attitude à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées. Hein. Ça, c'était la première caractéristique du bricoleur, selon Lévi-Strauss. Ce qui frappe dans les nouveaux ateliers de fabrication est la grande hétérogénéité des projets auxquels ils donnent lieu. Justement, il ne s'agit pas simplement de haute technologie et d'imprimantes 3D, il s'agit d'activités très diversifiées. Comme le bricoleur de Lévi-Strauss est en cohérence avec une éthique de la récupération, le maker s'arrange à chaque moment avec les moyens du bord. Il ne se limite pas à la simple exécution d'un projet préconçu, parce que chaque projet s'alimente continuellement des apports et des améliorations de la communauté qui se constitue à la fois dans l'espace physique de l'atelier et dans ses prolongements virtuels via Internet. Comme celle du bricoleur inventeur des mythes dans les sociétés dites sauvages, l'activité du maker se situe à mi-chemin entre des percepts et des concepts. D'une part, par une redécouverte des vertus du travail manuel, je vous invite à lire un très beau livre qui s'appelle « Éloge du carburateur ». J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est un magnifique ouvrage. D'autre part, par l'abstraction de l'univers numérique. L'univers instrumental du bricoleur, qui était décrit par Lévi-Strauss comme étant clos dans cette approche des moyens du bord, accède à l'ouverture qu'autrefois n'était réservée qu'au travail de l'ingénieur. Et cette nouvelle écologie du fer aspire aussi à sauvegarder ce que Lévi-Strauss définissait comme la poésie du bricolage, où le projet et les outils choisis pour les réaliser constituent un récit des choix de leur auteur. Donc il y a une très belle phrase de Lévi-Strauss qui dit « Sans jamais remplir son projet, le bricoleur il met toujours quelque chose de soi. Hein, c'est jamais une production détachée des finalités, de la personnalité de celui qui le réalise. » La reconfiguration du fer qui est en jeu dans ces nouvelles pratiques artisanales implique ainsi de nouveaux rapports à l'environnement, l'émergence de nouvelles formes ouvertes de communautés, de nouveaux partages entre espaces publics et espaces privés, pratiques artistiques et pratiques artisanales, une nouvelle fabrique du sensible, pour rappeler de nouveau notre ami Jacques Rancière. Donc, la dernière direction que nous sommes en train d'explorer est une direction qu'on pourrait appeler pédagogique, hein, qui nous semble essentielle pour accompagner le changement de paradigme en cours, hein, et donc dans une perspective plutôt d'histoire du design, mais une histoire du design pensée en fonction du présent et si tout va bien du futur, nous avons travaillé à l'expérience Global Tools. Alors pour résumer très brièvement, dans le prolongement du mouvement de l'architecture radicale italienne des années 60-70, Global Tools a été entre 1973 et 1975, donc ça a été une expérience de très courte durée. L'ouvrage que vous voyez est disponible gratuitement sur Internet. Il est en anglais, mais vous pouvez le télécharger. Il y a beaucoup d'auteurs qui y ont contribué. A été une expérience pédagogique éphémère qui ne s'est jamais constituée en une véritable école. Les initiateurs du projet, qui étaient essentiellement des architectes, le présentaient comme un système de laboratoire où former les concepteurs ne signifiait pas les initier simplement à l'usage de matériaux et techniques, mais aussi à ce que les membres de Global Tools appelaient des comportements associés, un peu comme le milieu associé chez Simondon. Il s'agit des comportements et des gestes hérités de savoir-faire artisanaux qui risquent d'être effacés par la logique industrielle de spécialisation. Ces collectifs œuvraient dans l'Italie des années 60-70, dans laquelle l'industrialisation massive était en train de faire disparaître des savoir-faire ancestraux très importants pour la culture italienne. Je vous invite à lire Pasolini comme référence principale sur cette question, notamment les écrits corsaires. Donc, ce sont des savoir-faire artisanaux qui risquaient d'être effacés par la logique industrielle de spécialisation, vitesse et efficacité économique immédiate, qui institue, d'après les membres du collectif Global Tools, une distance aliénante entre le travail de la main et celui du cerveau. Cette logique s'inscrivait alors, et s'inscrit encore plus aujourd'hui, dans le court terme de la rentabilité, alors que les animateurs de Global Tools aspiraient à apprendre et à enseigner les problèmes complexes de la conception, de la fabrication, de la construction de lieux de vie dans le long terme. Les seules traces écrites qui ont été laissées par cette expérience sont deux bulletins édités respectivement en juin 1974 et janvier 1975, dont vous trouverez l'intégralité dans l'ouvrage qu'on vous a montré tout à l'heure. Ils sont en édition bilingue italien-anglais, donc on peut la lire. Là, on travaille au projet d'une traduction en français. Le document 3 du bulletin numéro 1 liste les catégories théoriques et pratiques dans lesquelles les membres de Global Tools avaient l'intention de réfléchir et agir. Catégories qui incluent des catégories classiques dans le domaine de l'architecture comme la construction, qui privilégie des techniques pauvres ou traditionnelles, la dimension, mais aussi d'autres qui sont moins attendues dans ce genre de documents, comme la dimension esthétique et psychomotrice du corps, la communication, la théorie, la survie physique et psychique, associée à des activités aussi diverses que l'agriculture, le camping, la gastronomie, la méditation, dont la liste évoque un classement à la Borges. Dans le deuxième et dernier bulletin édité par Global Tools, la présentation de l'axe communication, qui est profondément influencé par la lecture de l'œuvre de Marshall McLuhan à l'époque très à la mode, qui le redevient aujourd'hui, montre clairement que le désir d'une redécouverte de techniques et savoir-faire ancestraux n'implique en rien un refus des technologies contemporaines, mais plutôt une posture critique à leur égard, une posture critique qui reste à notre avis nécessaire, même au sein des nouveaux ateliers de fabrication, et des espoirs qui suscitent aujourd'hui en direction de l'invention d'une nouvelle écologie du fer en général et du design en particulier. Et on a fini, merci.
Nous avons choisi de vous présenter tout d'abord où puise la nécessité que nous avons eue d'engager un dialogue entre danse et urbanisme avant de vous présenter le projet de recherche commun qui en découle. Pour situer cette présentation dans le cadre de la problématique de ce colloque, il est important de préciser que notre rencontre se nourrit d'un objectif partagé qui est celui d'interroger et de mettre en visibilité les choix sous-jacents à la forme. De qui et quoi ou quoi décide-t-on de prendre soin et de qui, quoi, prend-on effectivement soin à travers les formes proposées, que ce soit en danse ou en urbanisme. Ce questionnement repose sur une conception de l'environnement qui tient à celle que propose Jean-Pierre Lévy, pour qui l'environnement intègre tout aussi bien les dimensions sociales, vécues et esthétiques des rapports humains au milieu construit et non construit, que les liens entre les milieux construits et milieux non construits eux-mêmes. Mais elle puise peut-être encore davantage dans la conception de Tim Ingold, qui présente en fait l'organisme dans son environnement comme une totalité indivisible, comme un processus qui devrait être le point de départ de toute approche écologique. Et en fait, ces deux conceptions sont représentatives de ce sur quoi se fonde notre dialogue, en ce qu'elles posent la relation comme centrale. Préciser notre positionnement nécessite à présent que nous présentions où nous nous situons chacune dans notre discipline et ce que représentent pour nous les perspectives ouvertes par ce dialogue art-science que nous engageons. Je cherche pour ma part, à travers mes recherches en urbanisme, à contribuer à répondre à l'exigence pragmatique qui consiste, selon les termes de Émile Yach, à tenir ensemble nos idées, nos actes et leurs conséquences. Donc je cherche ainsi à analyser les aménagements produits au prisme des expériences urbaines qu'ils donnent à vivre pour interroger en retour les modes de faire la ville, notamment à travers l'étude de leurs fondements théoriques et des représentations que les acteurs qui sont en charge de leur mise en œuvre s'en font. Le volet de cette démarche qui nous intéresse ici vise à tenir ensemble analyse sensible des aménagements et vécu des personnes qui en ont une expérience quotidienne. L'enjeu, c'est de prêter attention au pouvoir transformateur des pratiques, à l'instar des travaux de Michel de Certeau ou Jean-François Augoyard, tout en prenant en compte ce à quoi ou à qui les personnes concernées tiennent et ce qui les fait agir. En cela, l'objectif est en fait de contribuer à écologiser, au sens où l'entendent Émile Yach et Jean-Paul Thibault, l'approche de l'urbanisme. Et les recherches de Benoît Feidel pointent combien il est important de faire place pour se faire aux émotions, aux sentiments et aux affects. Et en ce sens, l'art de Laetitia Angot ouvre des perspectives heuristiques. Déjà parce que, premièrement, en invitant à penser par le corps, Il offre en fait une intelligibilité qui va me permettre d'approfondir les questionnements théoriques et méthodologiques sous-jacents à mon positionnement. Et aussi parce que, quelque part, il permet une forme d'engagement du chercheur qui me paraît essentielle.
Alors, je vais tenter, donc ici et maintenant, hein, n'est-ce pas, de cerner de quoi il s'agit dans le fond. Donc, nous allons procéder ensemble, hein, maintenant, par un effet de montage au sein même de la forme de cette présentation. Donc, nous pouvons observer depuis là où nous sommes, donc vous là qui êtes là, et moi qui n'ai pas du tout la même position, ni celle que Zoé a en ce moment. Nous pouvons observer donc ce qui se passe lorsque nous passons d'un régime à l'autre, de la communication à la danse. Nous allons donc changer de type d'expérience. Nous avons changé de type d'expérience. Dedans, se laisser traverser, commencer de zéro, pourtant c'est toujours déjà commencé, tout le temps du monde. Évidemment, je suis un être de langage, je suis accrochée au symbolique. Donc, pour évoquer ce à quoi je travaille, je peux me projeter dans une chose et vous dire ce qu'elle représente pour moi. En fait, je travaille à des danses de peu. Par exemple, je peux dire qu'elles se forment sur le modèle du champignon et ou des choux-fleurs. Bien sûr, je suis dans le régime de la métaphore. Se projeter dans du vivant et potentiellement ici de la nourriture. Ils sont d'une certaine manière aussi de se former. Ils sont l'image d'un processus et d'un ressenti, de comment la forme naît à même l'improvisation. Évidemment, j'ai choisi moi-même, et il y a une part de moi donc, qui s'exprime là-dedans, le champignon ou le chou-fleur. Se projetant ainsi, c'est aussi une manière pour moi, je pense, de sortir d'une certaine représentation de la danse, du concept, en choisissant comme modèle quelque chose qui est plutôt du côté du trivial. Peut-être qu'il s'agit d'échapper à l'assignation par juste être. Je parle beaucoup de sortir, de régime, ce à quoi on s'articule et ce qui nous nourrit. Donc peut-être sommes-nous toujours pris dans des filets. La danse du milieu serait pour moi la danse des moyens du bord, de l'attention portée sur, quand on est nécessairement singulier et séparé, pris dans le symbolique. Et qu'on pèse sa relation au proche et au lointain, à l'autre, l'étrange étranger, l'animé comme l'inanimé, et qui peut être aussi nous-mêmes. Finalement, quand on pèse sa relation à l'histoire, à la grande comme à la petite, et à la géographie, ce rapport qu'on entretient. Finalement, quand on pèse son vivant, pris dans des agencements, des situations, celle-là, la nôtre, là, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Des situations, des schémas, donc, des habitudes, mais aussi des aliénations. Depuis cette fréquentation assidue, cette observation attentive, peut-être qu'on peut sortir d'une mécanique, penser un être ensemble et imaginer la grande sortie de la verticale et du point de fuite. Et travailler au guingois. Depuis la pratique, dont le propre est pour moi cette capacité toujours à relancer, cette aptitude entretenue à s'attarder sur, peut-être aussi ce que nous faisons en ce moment, depuis ces deux jours, penser. Peut-être peut-on étirer le temps et sortir de la barbarie du rendement. Cette danse du milieu se penserait alors nécessairement en ouvrant une danse des conflits, une danse des conflits qui mettrait à jour les tensions. Des peaux, des masques s'érigeant ou pouvant s'abattre. Commencer de zéro, c'est toujours déjà commencer. Danse des changements, des orientations qui ouvrent toutes les relations à l'aptique. Échapper à la tentation du repli mélancolique et à l'ouverture hystérique. se tenir entre, peut-être ce qu'il y a de commun, peut-être ce qui s'inventerait entre ce qui serait une danse de l'esclave ou une danse du fou ou une danse de l'enfant, serait dans l'expérience, le jeu avec la chose, l'inconnu, l'irréprésentable, dont ici je fais l'expérience. Lorsque je joue comme l'enfant, je fais l'expérience de l'écart. Je retourne. Ce qui était absent m'apparaît. Ce qui était subi devient une ressource. Donc oui, je cherche à sortir d'une logique de production, d'une logique du spectaculaire, du spectacle. Comment on crée un objet esthétique dans cette intention ? Forcément, ça pose des questions économiques. Recherche de partenaires, instrumentalisation possible et lissage lorsqu'on peut être, y être exposé. Pardon. Tenir ensemble forme, affect et éthique et travailler en creux. Voilà ce à quoi je travaille. Donc tout me regarde, je me sens concernée. Par exemple, le temps là qui passe. Je tends d'élargir ma conscience de ce qui est en jeu comme modèle de société. Incroyable faculté d'un objet, d'une forme, d'un modèle de pensée, d'action à nous attirer ou à nous repousser. Action, réaction. Un constat, au passage, le spectacle peut produire des formes de dénonciation alors même que ses principes de production les utilisent. Lorsque je fais l'expérience de voir danser Zoé, tandis qu'elle-même en fait une autre expérience, tandis que vous-même vous en faites une autre, je sors du régime de la production de forme, du régime de l'avoir. J'entre dans le régime de l'être. Il n'est plus question de technique, de catégorie sociale, d'appartenance à un milieu, d'exposition de propriété, Zoé Hagel, chercheuse, mais d'un vivant s'exposant dans sa fragilité à ses conflits. C'est elle qui se dépose dans la forme, organisant à vue la tombée des masques. Dessaisissement, déproduction, exploration des potentiels, sans les catégories là, du bon, du beau, du performant, de l'idéal. Donc, flânerie, qui tourne le dos au capital, épouse d'où l'on vient et aussi nos devenirs. L'équivalence du mal fait, du pas fait, du bien fait. Une pensée agit qui s'exhale. Ligne d'air de Deligny, pas perdu de De Certeau, trouver peut-être inlassablement un chemin, troué, en joie, et surtout maintenir les questions ouvertes.
Nous avons choisi de situer notre projet de recherche dans un quartier populaire, ce pour trois raisons principales. Tout d'abord parce que nous faisons... du fait, en fait, de la nécessité d'une déhiérarchisation des regards portés sur la pauvreté dans la fabrique urbaine. Et peut-être, au-delà aussi, et à l'image de ce que les recherches de Joan Martinez-Allière montrent quant à la portée et aux perspectives offertes par la redéfinition des conflits environnementaux au prisme des enjeux et des modes de vie des populations pauvres. Donc nous pensons qu'une approche esthétique et sensible de la manière dont la ville et les aménagements sont vécus dans les quartiers populaires pourrait contribuer à une inversion des regards, voire à un renouvellement des connaissances ou à un changement de paradigme que plusieurs auteurs considèrent comme nécessaire pour relever les défis contemporains posés à la ville. Nous avons choisi plus particulièrement de nous intéresser au quartier dans lequel vit Laetitia, dans le 18e arrondissement de Paris, vers Porte de la Chapelle, et ce pour trois raisons principales. La première, c'est que nous faisons l'hypothèse d'une heuristique du proche, et donc le fait que Laetitia vive dans ce quartier nous semble intéressant. Ensuite, et à l'image de beaucoup de quartiers populaires, en fait, ce quartier est cerné par de nombreuses infrastructures de transport. il est donc l'objet, enfin, il est soumis à des effets de coupure et permet donc d'aborder les enjeux relatifs à la ville morcelée, tels que Frédéric Errand définit ces deux notions. Et enfin, c'est un territoire qui fait l'objet de plusieurs interventions et projets urbains à différentes échelles et à différents niveaux de mise en œuvre. Et en fait, ce sont ces mutations-là, projetées ou à venir, que nous souhaitons interroger au prisme du dialogue dense-urbanisme que nous entamons. Notre démarche, elle est exploratoire et inductive, tant du point de vue scientifique qu'artistique, et les bricolages sur lesquels elle repose, en fait, puisent dans une imprégnation réciproque de nos deux disciplines. Par exemple, par le fait que je participe aux démarches artistiques de Laetitia, par la réalisation en commun d'observations et d'arpentages flottants in situ, ou de lectures partagées. Le projet de recherche, en fait, s'articule autour de la proposition de temps de pratique chorégraphique aux habitants sur une durée longue. La structuration de ces temps de pratique, elle est conçue comme une mise en écho de ce que la pratique de la danse peut révéler, voire bouger de l'expérience esthétique d'un trajet familier, mais aussi de ce que l'expérience urbaine peut déposer dans la danse. Je vais participer en tant que chercheuse à ces temps de pratique avec les habitants, et le fait que j'ai déjà pratiqué avec Laetitia va faciliter la transmission de la proposition artistique. Mais je dirais qu'il y a aussi le parti pris de dire que ces temps de pratique constituent un mode d'investigation des rapports sensibles des habitants à leur quartier et d'investigation de leur vécu aussi, qui permettrait d'avoir accès à une part de non-dissible inhérente à l'habiter. Et le fait aussi que je fasse partie du processus de création artistique décale la relation enquêteur-enquêté, c'est-à-dire que le corps du chercheur, ses affects et son approche sensible, ils sont ici engagés et exposés au même titre que ceux des enquêtés. Et en fait, l'hypothèse sous-jacente, là, c'est que cette expérience commune va permettre la libération d'une parole autre à laquelle le chercheur n'aurait pas accès sinon. Concrètement, le projet débute par une phase de pratique chorégraphique au cours de laquelle il est proposé à chaque participant d'explorer, parmi les trajets qu'il fait souvent, celui qu'il choisirait pour se présenter. Ensuite, en s'inspirant en fait de la petite danse de Steve Paxton, il est offert à chacun de parcourir ce trajet de manière imaginaire et tout en étant attentif en fait à ce que cela produit dans son corps, notamment en termes de tension et de relâchement. Mais en fait, la parole de Laetitia va venir guider aussi ce parcours, en proposant des concentrations particulières, que ce soit sur la qualité de contact avec le sol ou sur l'effet du cheminement sur la respiration. Mais ce qu'elle va proposer aussi, c'est de laisser émerger et d'accueillir en fait les affects et les mémoires associés. Ensuite, et à l'image des expériences de Jacques Dalcroze, l'objectif, c'est d'amener chaque participant à travailler avec la qualité et la finesse de ses sensations, mais tout en ayant la contrainte de devoir traverser la salle. Et en fait, c'est de l'improvisation qui va être nécessaire à la tenue de ces différentes contraintes que va naître la danse. À l'issue de cette première phase, en fait, je vais me rendre in situ avec chaque participant qui acceptera pour effectuer à ses côtés le trajet qu'il aura choisi et en recueillir le récit, donc en m'appuyant notamment sur la méthode des parcours commentés détaillée par Jean-Paul Thibault, mais aussi pour dépasser la difficulté inhérente à la mise en mots du sensible et du vécu. On s'inspirera de la méthodologie des baluchons sensoriels développée par Théa Manola, Et donc, il sera laissé la possibilité à chacun de prendre des photographies ou de faire des dessins, de récolter des objets ou encore d'enregistrer des sons, que ce soit le jour même ou tout du long du temps que dureront les pratiques. Et en fait, ces matériaux, ils vont venir alimenter à la fois la recherche en urbanisme, mais aussi la démarche artistique, puisqu'ils vont servir de support aux différentes phases de pratiques successives, qu'il s'agisse de danser sur des sons recueillis ou à partir de paroles prononcées in situ, ou encore en convoquant des images produites. Donc après une nouvelle phase de pratique chorégraphique, je retournerai in situ, toujours avec chaque participant séparément, pour faire l'expérience du même trajet, mais cette fois en fonction de l'avancée de la recherche en urbanisme et de ce qui se sera produit au cours des temps de pratique. Je proposerai à chaque personne de s'attarder soit sur des endroits précis, soit sur des dimensions sensibles particulières. Et je recueillerai le nouveau récit qui pourra être fait de ce trajet. Donc, de nouveau, un aller-retour avec la pratique chorégraphique. Et en fait, un troisième et dernier cheminement in situ est prévu, cette fois orienté sur la projection et le rêve. En fait, l'idée, c'est de porter attention à ce qui est présent et ce avec lequel la personne rêve, ou au contraire, ce qui est ressenti comme absent et que la personne aimerait expérimenter. Pour conclure, en fait, donc, la mise en œuvre de ce protocole, de cette démarche, de ce projet, constitue en fait le corps de la démarche artistique. Le processus et la pratique envisagée sur un temps long sont en fait posés comme centraux. Du coup, si la création d'un ou plusieurs objets artistiques, esthétiques, c'est possible, la création d'objets esthétiques est possible, en fait, leurs formes ne peuvent être prédéterminées. Et l'enjeu, en fait, à ce niveau, il est double. C'est que les formes soient à la fois le dépôt des choix effectués, y compris des ratés et des difficultés, et donc qu'elles portent en ce sens la mémoire des pratiques, et qu'en même temps, elles permettent à ceux à qui l'intention de partage est adressée, qu'elles leur permettent de vivre une expérience. Et moi, cette approche en tant qu'urbaniste, elle m'intéresse particulièrement parce qu'elle me permet d'aborder différemment l'un des résultats de ma thèse, en fait, qui tendait à montrer l'importance de considérer la phase de mise en œuvre comme une étape créatrice à part entière de l'élaboration du projet urbain et non comme une simple phase de traduction technique. Et je dirais que plus largement, je tente à travers ce projet de répondre à l'appel formulé par Maurice Merleau-Ponty lorsque le philosophe enjoint à ce que la pensée de science, pensée de survol, pensée de l'objet en général, se replace dans un « il y a » préalable, dans le site, sur le sol du monde sensible et du monde ouvré, tels qu'ils sont dans notre vie, pour notre corps, non pas ce corps possible dont il est loisible de soutenir qu'il est une machine à information, mais ce corps actuel que j'appelle « mien ». La sentinelle qui se tient silencieusement sous mes actes. Il faut qu'avec mon corps se réveillent les corps associés, les autres, qui ne sont pas mes congénères, comme dit la zoologie, mais qui me hantent, que je hante, avec qui je hante un seul être actuel, présent, comme jamais animal n'a hanté ceux de son espèce, son territoire ou son milieu. Et aussi modeste soit-elle, il me semble que toutes les contributions s'inscrivant dans cette filiation sont importantes pour répondre à et répondre des enjeux écologiques contemporains. Merci.
Bien. Je vais essayer d'être dans les temps et de ne pas trop vous assommer pour cette dernière conférence. Merci en tout cas aux organisateurs d'avoir sélectionné cette proposition sur une idée qui vient effectivement, comme l'a dit Olivier Labussière, qui a été inspirée par la présence des mauvaises herbes dans l'espace urbain et de leurs fortunes variées et très diverses, et aussi d'une rencontre l'an dernier avec un herboriste qui m'a expliqué qu'il était un hors-la-loi, puisque depuis le 11 septembre 1941, la pratique de l'herboristerie est illégale en France. C'est une pratique illégale de la pharmaceutique qui est passible d'amendes et de peines de prison assez lourdes. Une interdiction qui était décrétée par le régime de Vichy à l'époque sur la pression des pharmaciens et qui était étonnamment maintenue en vigueur par les différents gouvernements actuels et malgré les projets de loi qui visent à réhabiliter l'enseignement de l'herboristerie et la délivrance d'un diplôme. Alors aujourd'hui, les herboristes sont formés auprès d'anciens herboristes qui ont eu leur diplôme avant 1941, et donc ils sont de plus en plus rares. Et désormais, ils pratiquent dans la toute illégalité cette fonction de l'herboristerie, puisqu'il est interdit de donner des conseils thérapeutiques à partir de plantes, et il est interdit de vendre des mélanges de plantes, à moins que vous ne soyez pharmacien. Aujourd'hui, 148 plantes ont été libérées. C'est le terme légal, libéré par les autorités publiques depuis 2011 pour que celles-ci soient vendues dans certaines officines qui ne soient pas pharmaceutiques. 365 d'entre elles sont encore prisonnières des pharmacies. Si j'en conclue, puisque si on parle de plantes libérées, les autres doivent être emprisonnées. Donc je me suis dit que c'était ça le bon terme. Donc comme on le voit, les plantes, qu'elles soient des mauvaises herbes ou des bonnes herbes, sont encore sous le joug évidemment des brevets, des intérêts pharmaceutiques qui priment sur la demande citoyenne qui cherche pourtant depuis quelques années à se fournir en pharmacopée plus naturelle et donc se heurte à une résistance d'un autre temps. Si l'herboristerie a subsisté, c'est par un esprit de dissidence hérité des plantes, un esprit de dissidence que ces spécialistes entretiennent, fermement convaincus que 30 heures de formation en herboristerie pour les pharmaciens n'est pas suffisante pour soigner. Le monde naturel et ses ressources sont ainsi toujours en proie à un contrôle pyramidal qui conduit à de telles absurdités. Elles ont un potentiel séditieux puisque ceux qui les connaissent et les recommandent aujourd'hui sont des hors-la-loi. Cette ressource s'émaille aujourd'hui des fruits de la recherche en ethnobotanique. Ainsi, l'artiste Asya Sonia-Sutter, en effectuant des recherches sur nos liens à la nature cultivée dans l'agriculture, à une nature qui n'est donc plus tellement naturelle et qui est plutôt hybride, s'est spécifiquement intéressée à l'histoire de la colonisation et des grandes migrations des espèces, et notamment des espèces anciennes de pommes de terre. Et elle s'est heurtée à la législation européenne qui condamne des fermiers qui aujourd'hui utilisent des semences non répertoriées dans les catalogues des semenciers officiels qui essayent de faire interdire certaines espèces car ils veulent restreindre la biodiversité et ne tiennent pas compte des spécificités locales. Alors pour ce projet High Diversity d'Asya Sonia-Sutter, elle a cherché à réintégrer la culture d'une douzaine de variétés de patates apparues au cours des 18e et 19e siècles à et autour de Paris puisqu'il s'agit du berceau de l'introduction de l'espèce en Europe par Monsieur Parmentier. Ce projet artistique explore les liens entre l'évolution du tubercule et l'histoire politique française, considérant à la fois le rejet de certaines variétés de légumes dues à l'industrialisation de l'agriculture, la revitalisation de ces mêmes variétés par des fermiers ou des laboratoires de recherche, mais aussi les conditions d'inscription sur la liste des variétés nationales de la régulation européenne. Alors pour ce projet, donc, c'est 12 patates multicolores qui ont été retenues, qui datent donc de l'époque de la Révolution française, et cultivées malgré leur interdiction de circuler en dehors du territoire, sur le territoire européen. Ce sont des patates non grata. Celles-ci, parce qu'elles sont trop diverses génétiquement pour les méthodes de cultures actuelles contrôlées par l'industrie agricole. Donc cette culture a été pratiquée dans des fermes biologiques autour et dans Paris. Asya Sonia-Sutter est inspirée en fait par les lieux de culture historique du féculent et l'esprit de résistance face à la standardisation et la production de la nourriture qui émerge à Paris au travers des initiatives des jardins partagés. Et là, je la cite, « Les pommes de terre, bien que nous nous connaissions parfaitement, révèlent des histoires inédites sur les hommes, sur ce qu'ils décident, sur leurs besoins. Regarder les humains de la perspective des patates, c'est les voir sous un autre angle. En somme, c'est une nouvelle façon de les comprendre. » Alors, cette démarche d'associationniste de tir est très symptomatique de cet intérêt que développent certains artistes aujourd'hui pour une transmission de connaissances et de savoirs sur un mode horizontal qui correspond un peu à la radical pedagogy de Global Tools et qui correspond aussi à ce qui se développe notamment au Kenya depuis les années 80, une folk ecology, donc une écologie populaire ou d'un savoir vernaculaire basé sur la connaissance locale, sur la préservation d'une biodiversité que les multinationales occidentales ont tenté de restreindre en imposant des semences moins complexes. Aujourd'hui, à l'heure où des pays comme le Salvador obtiennent des résultats agricoles sans précédent depuis qu'ils ont banni le Roundup de Monsanto et également le monopole de grandes semencières et entreprises phytosanitaires internationales, la démarche rejoint le désir de libérer le lien à la nature et de réhabiliter une histoire culturelle de la plante. Alors les hybrides justement qui ont été utilisés au Salvador jusqu'à présent ont appauvri les sols et l'État a massivement investi 18 millions de dollars pour remettre au point une semence indigène qui a des rendements qui sont absolument insensé par rapport à ce qui s'est produit pendant des dizaines d'années. C'est également, ça fait partie de tous les exemples que vous pouvez trouver sur le web, y compris ceux des super-pouvoirs de l'amarante, aujourd'hui renforcés par le Roundup Ready de Monsanto, qui a complètement été métabolisé par cette amarante qui vient pourrir les cultures OGM et prendre le contrôle et le pouvoir de façon totalement dissidente dans ces champs et s'imposer finalement comme une super mauvaise herbe, une super weed, mais qui devient une super ressource puisque, par exemple, dans l'amarante, il y a 30% de plus de protéines que dans le soya. Donc ça fait partie de toutes ces grandes épopées autour des mauvaises herbes et des actions artistiques ont mis en lumière ces histoires naturelles en les répertoriant les plantes qui sont tantôt indigènes, tantôt exotiques et qui répondent souvent d'une décision administrative. Leur présence est administrative ou esthétique, mais elle n'a pas été choisie par les plantes souvent pour être introduite sur certains sols, mais ensuite elles existent par elles-mêmes et là elles menacent l'ordre public. Ce système d'exclusion et de réhabilitation des plantes est au cœur des pratiques de Simon Boudvin, qui vit à Bagnolet et à Montreuil, deux municipalités qui ont décidé de classer l'Elanthus altissima herba non grata et d'organiser des arrachages violents de cette plante. Donc Simon Boudvin a entrepris le relevé photographique des élantes de son quartier en dressant une chronique par l'image de cette plante exotique dans son quartier familier, dont le développement naturel verdit la ville, mais inspire aux défenseurs de la biodiversité des propos xénophobes. Ce travail photographique à la recherche du singulier dans un milieu commun a commencé au seuil de l'atelier de l'artiste, comme vous pouvez le voir, qui a commencé un inventaire, comme il le dit, des coins, des marges, des bandes, des zones délaissées, adoptées par cette nouvelle végétation d'origine orientale. Simon Boudvin a proposé ainsi une exploration à la fois botanique, urbanistique et sociale de ces environnements périurbains au cours de marches commentées et de diaporamas et toute une série d'expositions de ces images, de plans dans des différents centres d'art. Donc l'artiste s'est intéressé à cette plante, à son histoire, son acclimatation et son expansion. L'Elanthus est originaire de Chine et de Taïwan. Elle est présente davantage en forêt tempérée. Elle pousse très vite. Elle est capable d'atteindre 15 mètres en 25 ans, ce qui est assez remarquable pour un arbre. En revanche, elle a une durée de vie qui est très courte, 50 ans. Elle a été introduite en 1751 en Europe pour nourrir les bombyx au moment de l'explosion de l'industrie de la soie. Donc la nature de sa présence ici est purement industrielle sur le sol européen. Désormais, elle est classée au top 10 des espèces invasives, donc absolument indésirables. Elle a donc changé de catégorie et aujourd'hui se retrouve au milieu de discours qui tendent à défendre la biodiversité et la préservation de la nature et d'autres qui tentent à effectivement restreindre la présence de certaines espèces et d'indiquer leur extradition. Donc l'inventaire des photographies montre que certains pieds ont été adoptés, donc ici pieds sauvages, pieds adoptés derrière des palissades dans des propriétés privées. Un peu plus discret, il faut la trouver derrière tout ce métal. Pieds arrachés, pieds rejetés. Simon Boudvin a créé comme une sorte de nomenclature visuelle. Il a également travaillé le bois avec des sculptures. Je ne sais plus si ça fait partie des plans. Je ne sais plus si j'ai gardé ces sculptures. Si, voilà, des souches, des lentes tournées qu'il a trouvées. Car les lentes et le bois de vos cocottes à vapeur des mets chinois, c'est un bois extrêmement souple qui se tourne très bien. Donc il l'a travaillé, bien qu'aujourd'hui, on trouve que c'est un bois qui casse et qui n'a aucune valeur. Et donc même les municipalités qui arrachent et qui coupent ces arbres ne voient pas du tout l'intérêt d'utiliser ce bois. Ce qui est étonnant avec les lentes, c'est qu'aujourd'hui, on met en avant ses qualités désagréables. Le feuillage pue, le miel sans l'urine de chat. Il a les graines, les pollens ont un fort pouvoir allergisant, donc vraiment c'est une plante très sympathique. Seulement on oublie complètement toute la richesse que cette plante offre, notamment dans la pharmacopée chinoise. Donc vous voyez à quel point on transmet ce que l'on veut bien transmettre sur ces plantes qui habitent nos espaces urbains, et les arrestis sont là finalement pour nous les mettre en avant. Donc les décisions politiques conduisent aujourd'hui à l'éradication de telles espèces au prétexte qu'elles ne sont pas indigènes. Ça conduit à une intolérance botanique qui est tout à fait symptomatique de notre époque et des manières qui ne diffèrent pas de celles appliquées pendant les grandes colonisations qui visaient à imposer certaines espèces. La question de la dissidence botanique est ici au cœur de cette œuvre progressive de Boudvin et montre combien les populations se dissocient des espèces qu'ils ont importées et combien le droit du sol reste chevillé aux espèces botaniques. Malgré l'acclimatation courageuse de cette petite plante, celle-ci ne sera jamais d'ici. Elle sera toujours, possiblement, victime d'intolérance et d'une xénophobie ici maximale. Le système de contrôle, hérité des grandes périodes de conquête, est décidément toujours vivace et c'est désormais à nos portes que l'on décide d'une expropriation et d'une exploitation d'un territoire et de ses espèces. Donc on fait preuve d'une amnésie qui est parfaitement redoutable. Alors elle frappe aussi les mauvaises herbes qui sont l'objet des recherches de Laurent Cercia, qui est un artiste qui habite à Bordeaux, les mauvaises herbes qu'on appelle les adventices, et je rappellerai ici, pour reprendre une définition de base, que les adventices, ce n'est pas du tout en termes botaniques, mais une vision anthropocentrée de la place des végétaux, puisque ces plantes ne sont pas naturelles, elles sont liées en général à des écosystèmes perturbés par l'homme et à des espaces ruraux ou urbains. Donc ces plantes adventices sont réellement des plantes culturelles, bien plus que des plantes naturelles. Donc ici, je vais vous montrer la pratique de Laurent Cercia, qui pendant une résidence de 6 mois à Mont-de-Marsan a substitué le nom des rues, qui étaient généralement des noms des rues décernés à des militaires, c'est une grande ville de garnison, par des noms liés aux plantes adventices aux ruderales qu'il a trouvées dans les rues. Donc vous avez la rue de l'Aquilée Millefeuille, dont il rappelle qu'elle est dépurative, hépatique, tonique, féminine et hémostatique. La rue de la Bourrache également. Elle est également dépurative, décidément, sudorifique et hypotensive. Voilà plus de détails. Et ça m'a fait rappeler la lecture de Raphaël Larère qui avait écrit « Y a-t-il une bonne et une mauvaise biodiversité ?» en 2009 dans l'ouvrage « Écosophie ». Et je le cite. « Mais il me faut d'abord préciser ce que sont des espèces invasives. » Les flores et les faunes de tous les pays comprennent une proportion plus ou moins élevée d'espèces d'origine exotique qui sont parvenues à trouver leur niche écologique dans certains des écosystèmes présents sur le territoire. Elles se sont naturalisées. Certaines de ces espèces naturalisées sont considérées comme invasives dans leur territoire d'adoption lorsque leur prolifération produit, dans les milieux naturels ou semi-naturels, des changements significatifs de la composition de la structure et ou du fonctionnement des écosystèmes. Ces invasives ne représentent en général qu'une faible proportion de l'ensemble des espèces naturalisées. Ce à quoi j'ajouterai que parmi elles, les pestes végétales, car c'est un degré encore au-dessus, sont vraiment encore plus rares. Mais certaines d'entre elles sont davantage le fait des histoires des goûts et des modes que des véritables invasions végétales. Et je reprendrai encore Raphaël Larère. Rappelons d'abord que toute espèce, qu'elle soit autochtone ou exotique, est potentiellement invasive. Lorsque l'argument, comme l'argumente Robert Barbeau, la vie est par nature un processus qui conduit à l'expansion. N'importe quelle population animale ou végétale placée dans des conditions favorables tend à croître en nombre. Alors effectivement, Laurent Cercia s'est intéressé, outre ce phénomène de réassignation des rues, à toute cette population rurale et adventiste qui a poussé à Mont-de-Marsan dans un quartier en pleine restructuration, donc destruction de barres HLM pour reconstruction de logements. Et il en a créé un diaporama de 57 espèces pour informer la population de cette ressource à portée de main qui se trouvait à côté d'elle. Donc toute une série. Encore une fois, on est toujours sur le système de la collecte, de la cueillette, parfois d'une cueillette visuelle qui constitue des herbiers visuels qui sont proposés et qui ont nourri cette exposition itinérante que Laurent Cercia a travaillé avec une ethnobotaniste qui s'appelle Jardin de trottoir, qui est une exposition qui tourne depuis 2-3 ans en France et qui vise à sensibiliser la population, à apprendre justement de cette manne qui existe dans nos rues de façon presque illégale, en tout cas de façon très inventive. Et enfin, cet été, Laurent Cercia a choisi une autre stratégie à partir de ses plantes adventices. Il a exposé dans ce sorte de container, cette tin box, c'est le nom de l'association qu'il a invité, une collection d'adventices. Adventice qu'il a répliqué en plastique et qu'il a installé dans ce dispositif miroitant, cette espèce d'écrin, presque bijou, et que les personnes ne pouvaient regarder que de l'extérieur, donc comme une rareté précieuse, ce qui a créé un phénomène de curiosité et d'envie d'en savoir plus sur ce jardin spontané qui était présenté dans les rues de Bordeaux. Alors en plus, il faut savoir que cette ville, Bordeaux, a décidé de ne plus désherber chimiquement ces rues. Donc c'est une ville où la présence de la flore sauvage ou férale ou en tout cas rudérale est extrêmement importante, mais sans qu'il y ait eu vraiment de sensibilisation de la population bordelaise. Alors Laurent Cercia, par l'inclusion de ce kiosque dans différents endroits dans la ville pendant tout l'été, a généré des réunions, un dialogue pour informer autour de ce potentiel de 13 mauvaises herbes qui sont devenues particulièrement désirables à partir de ce dispositif. Enfin, je terminerai par l'exemple de Jeff Geis, qui est un artiste belge qui a représenté la Belgique à la Biennale de Venise en 2009, avec un projet tout à fait particulier, travailler avec des ethnobotanistes, d'abord à New York, puis ensuite dans les villes de Moscou, Bruxelles et Villeurbanne. Ethnobotaniste à qui il a demandé d'isoler un quadrilatère d'à peu près 1 km² dans la ville de New York au départ et d'y repérer 12 plantes, 12 mauvaises herbes qui pourraient être utiles à la population des sans-abri. Ces ethnobotanistes ont donc commencé à arpenter la ville et à répertorier bien plus que 12 plantes, ramasser les spécimens pour en constituer un herbier pour l'artiste que vous avez ici exposé, photographier les plaques de rue pour le localiser et remplir un plan, on en revient toujours au plan, je suis navrée, et à la nomenclature, mais dans un espèce de souci de présenter au public de la Biennale de Venise toute une ressource ethnobotanique. Alors je lis un extrait de ce que disait justement cet ethnobotaniste par rapport à sa quête. Almost all the plants I collected in New York City are considered weeds because they grow in places where no one wants them, such as sidewalks or abandoned lots. Weeds take care of themselves and are pioneers in man-made settings around the globe, including cities. They are often inconspicuous or not paid attention to, but they are fierce, surviving in harsh environments, and they use their chemical defense systems to do so. The chemical molecules these plants produce make them valuable as medicine too. Research has shown. Donc, ce que dit effectivement cet ethnobotaniste, c'est une très belle ressource. Et j'ai isolé juste une plante, l'American pokeweed, le raisin d'Amérique, qui est mortel à haute dose, mais bien dosé. Vous pouvez soigner des infections respiratoires, des angines, l'arthrite, les rhumatismes, la gale, des mycoses, des pathologies qui sont très fréquentes chez les sans-abri. En Europe, c'est une espèce qui a été classée invasive et classée même peste végétale, donc qui est vraiment non grata dans nos espaces urbains, mais qui pourrait effectivement et qui a une raison sociale dans nos espaces urbains, puisqu'elle peut avoir ce type d'application. Alors, la seule chose, le seul bémol que j'aurais sur ce travail de Jeff Guy, c'est que je n'ai trouvé nulle part de moment de restitution auprès de cette population sans-abri. L'exposition, ça a été montré dans une exposition à Venise, à la Biennale de Venise, mais quid de la transposition effective auprès de ce savoir auprès des sans-abri ? Là, c'est peut-être là où le bât blesse dans tout ce travail autour de l'ethnomédecine, de la médecine verte de la part de Jeff Guy. Mais en tout cas, on voit bien que ce sont des initiatives comme celle-ci qui génèrent un dialogue, la construction d'un lien, la transmission directe d'une connaissance à la manière de la pédagogie radicale et de la folk ecology. C'est un militantisme vert qui n'est pas centré sur la défense de la nature, mais une meilleure connaissance, une meilleure interaction et la possibilité de revaloriser les erreurs urbaines ou les faillites économiques par la nature. Donc vous voyez comme il y a une sorte de renversement par rapport à ces mauvaises herbes et comment les artistes sont extrêmement sensibles à étudier et montrer différentes intégrations des facteurs botaniques dans ces recherches sur les espaces interlopes. Tous mettent en avant la forme de la visite guidée, du plan ou du guide, diffusant des données, offrant des moments de communauté autour d'une réalité naturelle qui n'est pas celle d'une nature idéale, mais celle d'une nature concrète, à partir de laquelle imaginer sa propre dissidence par rapport à un monde urbain normé, généré à partir d'un cadastre. Ces initiatives rejoignent pour moi le fonctionnement de la folk ecology, cette connaissance écologique traditionnelle basée sur un savoir écologique indigène et qui cherche à résister à la domination intellectuelle exercée par la science et la technique sur le savoir vernaculaire. En fonctionnant sur une transmission horizontale du savoir, sur une formation de l'éco-citoyen, en revenant au savoir ancestral et traditionnel. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gilles Clément qui le dit, jardiner, c'est résister. Et je finis juste sur cet exemple. Dans la ville de Nantes l'an dernier, cette action anonyme qui a vu apparaître dans les rues ces pochoirs qui indiquent les espèces qui poussent dans les anfractuosités urbaines, donc l'astère des murailles, pissenlit, dents de lion, pariétaire de Judée. C'est une intervention qui ensuite s'est révélée être un projet quasi artistique, nommé Les plantes pour changer le regard des gens, qui a été créé par Frédéric Soulard, qui ensuite a tenu des réunions publiques autour de différentes espèces, ici comme la sagine ou la pariétaire de Judée, qui est une très belle plante, originaire de Grande-Bretagne et pas du tout de Judée, et qui a des propriétés, par exemple, adoucissantes, émollientes ou diurétiques. Je vous remercie.
Je voulais vous remercier tous les cinq pour ces trois présentations que j'ai trouvées très, très engagées, au sens où vous avez fait des vraies propositions extrêmement différentes, mais des propositions. Et donc ma question, elle va être très, très simple, mais peut-être à chacun des groupes d'orateurs. C'est le futur de vos recherches. Alors peut-être pour Laetitia et Zoé, c'est la question moi, des habitants qui vont intervenir dans la démarche. Comment ils vont être choisis, parce que je pense que c'est un enjeu assez déterminant. Pour Manola et Alessandro, ce serait la question, oui, de ce que vous allez faire après. Et j'ai l'impression que c'est l'expérience pédagogique qui vous intéresse, si je comprends bien. Donc c'est une question autour de ça. Et pour Béatrice, ce serait, voilà, si vous voulez continuer l'inventaire de ces pratiques ou comment vous vous engagez dans cette recherche, c'était la question.
Bonne question.
Par rapport à la question du choix, en fait, on a choisi donc de se déplacer. Là, j'ai commencé déjà à rencontrer des acteurs. Mon objectif, il est un peu grand. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup que les participants, en termes de métissage, c'est important pour moi que ça puisse mélanger autant des acteurs sociaux et culturels que les habitants du territoire. Donc c'est tout l'enjeu, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler là où j'habite, parce que ça, voilà, d'autres choses circulent quand... Voilà, je suis maman aussi, j'ai 3 enfants à l'école, donc il y a d'autres choses qui font qu'on peut parler. Parce que la danse contemporaine, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec la danse contemporaine ? Mais c'est quoi comme type de danse ? Voilà. Non, mais c'est ça, hein, en fait. Donc, de dire, qu'est-ce que tu fais comme danse ? Donc là, a priori, je vais être un petit peu, on va dire... Donc tout ça n'est absolument pas financé. Hein. c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire. Pour moi, c'est important. Donc, pour nous... Et du coup, là, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'évidemment, je me suis intéressée à la concertation qui est en cours, qui va avoir lieu donc, cette année, alors que les travaux commencent l'année prochaine. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de, justement d'observer. Enfin, ces deux jours, pour moi, ont été d'une grande richesse, parce que ça me permet de voir toutes les dimensions, en fait. Et j'ai pu voir dans les approches de chacun des dimensions qui ne m'étaient pas forcément auxquelles je n'étais pas moi-même sensible forcément parce que donc vos travaux servent voilà. Et pour finir mixité autant au niveau des générations que des acteurs pour pouvoir aussi déplacer en termes de fonction donc là je suis pour l'instant juste en lien avec l'ENS donc qui est une école d'assistant sociale et qui est en même temps un espace de vie. Et puis, comme en résidence, en fait, dans une des grandes tours de la Porte de la Chapelle, qui est gérée par une association des habitants, et donc qui m'invite à faire cette permanence chorégraphique et donc à inventer. Donc, pour l'instant, elles m'ont mis en lien avec deux personnes qui font du coupé-décalé. Donc, on sent le gap aussi de qu'est-ce qui se passe là entre d'un coup ces jeunes filles qui s'émancipent réellement et qui utilisent cette forme de danse et comment moi, avec mon travail, je vais pouvoir venir interroger ce qu'elles font, la question de leur identité et tout ça. Voilà. Bon, pardon, j'ai pris.
Je ne sais pas si ça marche. Hein.
Sinon, je regarde.
Bref. Pour ma part, je pense que c'est une très belle question que nous nous sommes posées en continuant à travailler. Je pense que la réponse, qu'à la fin, effectivement, on s'est rencontrés sur cette question de la pédagogie parce que nous sommes tous les deux enseignants dans des contextes légèrement différents, mais qui se sont croisés parfois. Sauf que je pense par ailleurs qu'Alessandro, qui est aussi designer architecte, il pourrait en faire aussi autre chose, plus que moi, de façon concrète. Je ne sais pas s'il a des pistes. Hein. Pour moi, c'est...
J'attends l'événement des Fab Labs. Non, mais le contexte de production doit être modifié parce que les règles du jeu dans l'architecture et dans le design sont compliqués pour ces genres de questions. Papanek, on les redécouvre maintenant 50 ans plus tard, mais il n'a pas travaillé. Il a écrit des livres. Il n'a pas travaillé. Il a été marginé à cause de ce qu'il disait. Donc, mais il y a plein de choses à faire et de toute façon, c'est obligatoire de le faire. Et moi, je le dis ça aux étudiants de première année des écoles d'art et de design et je le répète aux celles de cinquième année. Donc, ça servira à quelque chose.
Et moi, pour vous répondre, non, je ne continue pas à rassembler tous ces exemples, mais en revanche, je me pose la question de leur exposition, de leur transmission au public, de leur efficience, puisque effectivement, je m'interroge sur l'efficience de l'œuvre de Jeff Geis, des 12 plans pour les sans-abri, comment elle se transmet aux sans-abri. C'était très beau à Venise, mais je ne pense pas que c'était le public directement concerné par l'usage. Préempté par l'artiste. Donc, c'est tous ces décalages-là sur lesquels je travaille, sur la forme expositionnelle de l'art écologique qui, depuis ses prémices, rencontre des difficultés à exister dans l'espace du musée. Donc, c'est là-dessus que je travaille.
Merci pour vos présentations. Concernant donc la question de la danse et l'urbanisme, vous avez utilisé le mot éco-danse, en tout cas dans le programme. Enfin, j'ai vu éco-danse. Ah, d'accord, vous ne l'avez pas évoqué. D'accord, bon, c'était... de frappe. Est-ce que vous reliez, vous intégrez dans la liaison de la proposition du philosophe américain Richard Chesterman d'une soma esthétique comme alternative critique justement pour rompre avec le paradigme de l'appropriation plutôt visuelle, spéculaire, scopique de la ville, justement par une appropriation par le corps vivant, le corps sensible, le corps qui jouit. Donc, est-ce que voilà, la soma esthétique, vous considérez que c'est une option justement pour en tout cas se rattacher à la théorisation de votre mouvement. Et concernant donc le design, une petite question sur... moi, je me suis très intéressée par le Fab Lab de Barcelone, qui est connecté à l'école d'architecture, et dans justement la perspective de Cerdà, ce qui est dire qu'il pense véritablement les Fab Labs à l'échelle des quartiers et comme petite usine artisanale de proximité pour aussi. Et là, on voit une véritable interface potentielle entre Fab Lab et production de la ville, alternative sociale, innovation ouverte. Voilà.
Vous voulez commencer ?
Alors,
s'il vous plaît, très très court.
D'accord. Alors, je ne connais pas du tout en fait l'auteur que vous avez cité. Ce que je peux dire, c'est que nous, notre ambition, c'est, enfin, en tout cas, moi du côté de la ville, c'est de faire place vraiment au rapport sensible, de faire place au corps, mais comme mode d'accès au vécu vraiment et par là aussi de prendre plus le temps d'une attention fine de ce à quoi vraiment les gens tiennent, ce qui les fait agir. Et, enfin, je pense que c'est vraiment une dimension essentielle pour revoir et repenser les modes de faire la ville. Après, comme je ne connais pas la personne que vous avez citée, c'est un peu difficile de répondre plus en avant.
Sur Barcelone, merci pour la question, parce qu'effectivement, moi, pour vous resituer le contexte, moi, je travaille sur ces questions de Fab Lab avec un... laboratoire de sociologie du travail du CNAM. Donc mes collègues sont beaucoup plus intéressés à la question de la modification du travail, mais ouverte sur des perspectives design. Donc on a fait des ateliers, on a fait des colloques dans lesquels elles sont en contact régulier avec le Fab Lab de Barcelone, qui effectivement a l'intérêt d'être conçu au niveau de la ville, donc dans la perspective de voir quel est le lien entre les territoires, notamment les territoires urbains, et ces lieux, hein, appelons-les comme ça. Et moi, c'est la direction de recherche qui m'intéresse, moi, tout particulièrement. Sauf que moi, je suis à une école d'architecture où les Fab Labs, ils s'en fichent, pour ne pas utiliser un terme moins élégant. Et elles sont au CNAM, dans lesquelles la ville les intéresse de moins. Donc là, ce que je suis en train de faire en ce moment aussi, pour voir ce que je veux en faire du côté de la recherche, c'est de trouver un montage institutionnel pour que ce travail puisse se faire en voyant comment ces expériences se déclinent ou pourront se décliner, modifier les espaces, justement. Donc c'est le chantier en voie de préparation. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. On va...